Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec Axéo et Drieux-Combaluzier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, en direct du pavillon Dauphine pour les rendez-vous de l'UNIS. Et j'ai le plaisir d'être avec Olivier Safar, le président de l'UNIS Grand Paris-Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir Bérénice.
Henri Buzicazo, président fondateur de l'IMSI.
Bonsoir Bérénice.
Bonsoir. Et François-Emmanuel Borel,
bonsoir,
vice-président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Et à votre gauche, Benjamin Darmouni, bonsoir.
Bonsoir, Bérénice.
Vice-président également de l'UNIS Île-de-France Grand Paris. Messieurs, un petit mot peut-être sur cette soirée. Peut-être commencer par vous, Henri, qui avez animé le débat sur l'avenir du marché locatif avec des invités de renom. Un petit mot sur ce qui s'est dit, pour résumer.
Alors, le titre, c'était « Marché locatif, stop ou encore ?» Bon, il disait tout, le titre. Il y a des raisons objectives pour des propriétaires bailleurs et même pour leurs mandataires, quelquefois, qui peuvent être à court d'arguments, de dire « Non, on va pas continuer. » Voilà. Il y a une envie de désinvestir. Il y a heureusement des arguments qui retiennent les investisseurs, utilisés par les professionnels. Mais enfin, voilà, il y a des tracas du moment, transition environnementale, risque majoré d'impayés parce que les circonstances économiques sont dures. Il y a évidemment l'attente d'une considération fiscale, économique plus intelligente, plus moderne. Un statut, on l'attend. Bon. Ça s'ajoute à beaucoup d'autres choses. Plafonnement des loyers, etc. etc. Bon, bref, la question, elle était posée. Alors, elle se pose depuis longtemps. On manque de locations dans ce pays. Beaucoup de territoires en tension. Et là, comme l'accession à la propriété devient impossible pour probablement 40% des Français, bah, ils se reportent sur le marché locatif et ça vient rajouter encore des difficultés. Donc la question, elle était évidente. C'est celle qu'il fallait qu'on se pose ce soir. On l'a bien vu.
C'est la locomotive, en fait,
oui,
du marché.
Oui, forte fréquentation des adhérents, des professionnels qui sont venus ce soir, il faut le noter. Malgré les difficultés de circuler à cette heure-ci en région parisienne. Et puis les débatteurs, moi je parle comme animateur, qui ont vraiment été à la hauteur. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont été très sincères, très francs. Les deux élus, un maire, c'est désormais le niveau où on sent les inquiétudes. Hein, voilà, un député spécialisé dans les questions de logement, président du Conseil national de l'habitat.
Il était courageux, hein.
Alors, qui est courageux quand il doit prendre ses distances par rapport à ce que pense la profession, il ne le cache pas. C'est aussi ça, un politique. Et quand il doit prendre ses distances par rapport au gouvernement,
ouais,
sachant qu'il est de la même,
du même bord,
politique,
ouais,
eh bien, il ne s'en prive pas. Bon. Mmh. Et donc, c'est vrai que pour les professionnels, on peut vraiment s'appuyer sur lui parce qu'il est très libre, tout en étant loyal, naturellement, mais il est libre. Et puis, c'est un élu local aussi.
Bien sûr.
Il a été maire très longtemps. Il est très proche des maires, il fait tout le temps référence à cette expérience-là. Et il vient d'un territoire, les Landes, on pourrait dire, mais les problématiques franciliennes, il ne les connaît pas. Si, parce qu'il y a des tensions de logement et notamment de location sur son territoire qui sont considérables. Donc il connaît très bien ces questions-là. Bon, un président de l'UNPI aussi, qui était dans ses fonctions depuis pas très longtemps et qui a un discours qui renouvelle, je trouve, le discours des propriétaires. Qui sait dire.
Oui, on sent une énergie.
Oui, une énergie qui sait reconnaître aussi que oui, il faut accepter par exemple une donne sociale, hein, que le propriétaire, ce n'est pas juste quelqu'un qui va se moquer complètement de la situation sociale, il ne le peut pas. Mmh. Ça, c'est un discours qu'on n'entendait pas à l'UNPI, donc moi, je suis sensible à ça. Bon, deux représentants de la profession, les deux Olivier, qui sont, je pense, un bon miroir de la salle. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, d'ailleurs, parce que je pense qu'on avait une vraie richesse de débat.
C'est vrai que le débat était riche. Je reprends vos mots, c'est vrai qu'il y a des tracas, hein, qui concernent les propriétaires bailleurs essentiellement. Est-ce que du coup cette envie, cette décision de désinvestir, elle est là? Est-ce qu'elle est palpable?
Alors aujourd'hui, malheureusement, elle est palpable. Pourquoi? Parce que certains se retrouvent dans des difficultés. Difficulté d'abord de faire certains travaux de rénovation énergétique qu'ils ne peuvent pas financer. Difficulté aussi parce que certains propriétaires qui se faisaient un patrimoine, qui est quand même important, qui permettait d'avoir des revenus, aujourd'hui se retrouvent avec une impossibilité pour certains d'acheter des appartements pour des problèmes de financement, mais aussi des impossibilités aujourd'hui de pouvoir financer les travaux qui seraient nécessaires pour mettre en conformité ces logements. Donc on a aujourd'hui une période charnière où si le gouvernement ne vient pas donner une vision sur du long terme sur l'immobilier, où les gens vont se poser des questions, ce qui est le cas aujourd'hui, quitte à aller se dire bah, trop compliqué aujourd'hui, augmentation de la taxe foncière, on a vu à Paris entre 50 et 60% de taxe foncière.
À Paris,
c'est colossal. C'est colossal. Alors que dans certaines communes, l'augmentation fiscale nationale était que de 7%. Donc imaginez que vous passez dans une commune, vous êtes à 3 mètres de Paris, vous êtes à 7%, de l'autre côté, vous êtes à 62%, vous hurlez.
A été évoqué aussi le sujet des Jeux Olympiques. Alors je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Benjamin.
Oui, évidemment. Parce que
pas parce qu'il va participer. Hein, faut
ah bon être... Ah, je croyais. Je
faut être très clair pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas d'ambiguïté. Hein.
De ce côté-là, j'ai été très vite moqué. Mais oui, les JO sont un enjeu, surtout pour la location de courte durée. On sait que la mairie de Paris avait dit, par l'intermédiaire de Yann Brossat, qu'il envisageait de fermer les yeux. Nous, on n'est pas du tout sur cette optique. Je pense qu'il faut être objectif et réaliste, et il faut absolument durcir les règles parce que Paris devient impraticable.
Alors durcir les règles, ce serait quoi par exemple?
Bah, durcir les règles, ce serait l'obligation de séjour de 5 jours concernant la location d'un appartement Airbnb par exemple. Ça, ce serait durcir les règles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui viendraient moins de 4 nuits à Paris seraient dans l'obligation de retourner dans des hôtels. Ça paraît étonnant de parler d'hôtellerie.
Mais il n'y aurait pas assez d'hôtels pour les accueillir.
Sincèrement, comme on faisait avant. Avant, on y arrivait bien. Aujourd'hui, l'hôtellerie ne s'est jamais autant développée à date. Donc, je pense qu'on pourrait, les accueillir. C'est trop facile de dire, c'est parce qu'on peut pas qu'on va transiger. Et que derrière, on va autoriser les personnes à être hors la loi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc moi, sincèrement, pour les JO, effectivement, je ne comprends pas cette situation. Et même les Parisiens ne le comprennent pas. Nous, professionnels de l'immobilier, on a des appartements qu'on va perdre dans le parc locatif privé classique pour cause de JO.
Pourquoi? Alors les propriétaires, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent
Ils nous disent que pendant 6 mois, ils vont sortir de la location classique, qu'ils vont louer leur appartement en Airbnb et que derrière, ils le remettront en appartement classique. Sauf qu'une fois qu'ils l'auront meublé, on reverra plus jamais l'appartement. C'est pas vrai. Donc faut être honnête. Et donc il faut trouver une solution rapide à ce problème. Alors oui, on va accueillir plus de 12 millions de personnes. Enfin, je rappellerai à tout le monde que je crois qu'il y a que 3 millions de billets. Donc il y a pas que la notion des JO qui va faire venir des étrangers à Paris. Il y a aussi que Paris est une ville attractive qui a toujours attiré.
François-Emmanuel, un petit mot peut-être alors sur ces JO et puis après peut-être sur la conjoncture.
Sur les JO, en fait, il va y avoir un problème de calendrier parce que cette année, on a déploré le fait que les étudiants ne puissent pas se loger. L'année prochaine, je pense que ça va être pire, mais dans des proportions qu'on imagine à peine. Les Jeux Olympiques se termineront mi-septembre. Les appartements ne seront pas reloués à ce moment-là. Donc, on va avoir une vraie problématique.
Il y a un problème de calendrier.
Oui, un problème de calendrier. Alors, ce n'est pas juste un problème de calendrier, c'est une question d'offre. Beaucoup en fait comptent le louer en Airbnb afin de pouvoir faire face à des travaux de rénovation énergétique ou tout simplement d'entretien de leur appartement.
Oui, parce que ça
donc
coûte
on
cher.
Assez souvent, oui.
Ouais, ouais. Pour avoir une rentrée d'argent, faut quand même le dire.
Mais moi, ce que je constate, c'est que depuis 20 ans, en fait, il n'y a aucun signe positif vis-à-vis d'un propriétaire bailleur. En fait, depuis la loi Dalo, en fait, on se rend pas compte, mais ça a été un message déjà qui a été dit que de toute façon, il y avait un logement opposable. De ce fait-là, le propriétaire devait faire son affaire personnelle, éventuellement d'une dette, même si l'État pouvait se substituer éventuellement à lui. Mais depuis, il n'y a aucun signe positif. De toute façon, considérer les propriétaires bailleurs à Paris comme des rentiers, alors que 90% d'entre eux n'ont qu'un seul bien à louer, c'est déjà faire fausse route. Donc, moi, je suis assez craintif. Je reste positif, bien sûr, et optimiste, puisque ce sont mes clients. Mais je suis quand même très craintif pour en fait les étudiants, pour les primo-accédants, pour les personnes même qui... Les primo-accédants à la location. S'ils n'ont pas de parents qui se portent caution, les choses vont être plutôt compliquées. Heureusement, on a Visale. Et je pense que là, il faudrait réinsister sur le dispositif Visale très en amont. Sachez même que j'ai des demandes de location pour septembre de l'année prochaine. On me dit par anticipation, si vous avez quelque chose qui se libère, n'oubliez pas, parce qu'on est capable de préfinancer pour l'année prochaine.
Bérénice, un mot là-dessus quand même. Sur
oui, justement, j'allais vous demander, alors peut-être par rapport à ce qui vient de se dire, est-ce que, tout à l'heure, c'est vrai qu'il a été évoqué aussi le sujet du fameux statut du propriétaire bailleur qui est mis sur la table en ce moment. Est-ce que vous pensez que ça résoudrait une partie de tous ces problématiques qui touchent les propriétaires bailleurs et que ça effacerait peut-être cette vision un peu manichéenne qu'on a des propriétaires bailleurs?
C'est l'un des enjeux. L'enjeu, c'est que ce statut emprunte, les propositions qui sont faites, elles partent là-dessus, au statut de l'entrepreneur, finalement, hein, que l'amortissement du bien lui soit permise, la déductibilité, bien sûr, de l'ensemble des charges d'exploitation, et qu'il ait une considération fiscale variable selon le niveau du loyer qu'il accepte, le dividende social que j'évoquais à propos du président de l'UNPI, ou en fonction de la qualité de son bien. S'il fait un effort, c'est un bon élève.
Donc encourager les bons élèves.
Voilà, encourager les bons élèves et une fiscalité éco-conditionnée, éco au sens écologique, au sens économique. En gros, c'est ça. Bon. Ça donnerait envie, ce serait stable. Ça donnerait de la visibilité, ce ne serait pas une niche fiscale, ce serait inscrit dans le Code général des impôts.
Mais le gouvernement s'est bien dit en défaveur des niches fiscales.
Absolument, donc on entre dans
en cette... Le ministre du logement.
Voilà, on est complètement conforme au cahier des charges de ce gouvernement, et qui est un cahier des charges raisonnable. Alors ce chantier, le gouvernement aurait dû l'ouvrir déjà, d'autant que les copies qui lui ont été rendues font qu'il suffit
de pointer,
voilà, le travail est fait, bon, largement, il y a des options, mais bon. Le ministre dit ce sera pour la loi de finances pour 2025. En réalité, il dit en privé qu'il fait tous les efforts pour que ce soit inscrit avant, au calendrier.
Bon. Donc avant 2025.
Oui, exactement. Dès le début de 2024, c'est sa perception. Ça, c'est le premier point. Je reviens juste sur la sécurisation, parce que ça a été évoqué pendant le débat. Alors, Visale est un produit puissant. Les dispositifs de garantie contre les impayés de loyers privés sont également des produits dont il faut faire la promotion auprès des professionnels. Ça a été fait notamment tout à l'heure par Olivier Principal. Hein, dans cette période d'incertitude économique...
Vaut mieux prévenir que guérir.
Mais les assureurs prennent aujourd'hui le risque. Il faut prévenir. Il faut obligation de conseil vis-à-vis du propriétaire bailleur. Moi, je dis volontiers qu'un bailleur à qui on n'a pas proposé cette couverture, qui se retrouve avec des impayés lourds.
Il y a encore des professionnels qui ne la proposent pas ?
Beaucoup, beaucoup. Il y a un taux de couverture du parc professionnel, géré par les professionnels, qui est de l'ordre de 20%. Bon, voilà, hein, donc on a 80% de marge de manœuvre. Et le produit existe depuis 1980. Là-dessus, moi j'attire l'attention, je le redis, je suis convaincu de ce produit, je trouve que sécuriser le propriétaire bailleur, déjà c'est... lui donner vraiment envie de rester dans l'investissement. Parce que le pire de tout ce qu'on a raconté, ce n'est pas une faible rentabilité, ce n'est pas ceci, cela. C'est de se retrouver avec un impayé. On ne peut plus faire face vis-à-vis de la banque qui vous a fait confiance. Et là, les ennuis commencent. On ne peut plus payer ses charges de copropriété. Ça a été aussi dit par les syndics que sont Olivier Safar, Olivier Principal. Et les ennuis commencent. Donc, vraiment sécuriser, ça, c'est... il faut en faire des tonnes là-dessus parce que les circonstances économiques sont très rudes.
Olivier Safar, est-ce que vous avez constaté des problèmes au niveau de la trésorerie des copropriétés à cause justement d'impayés de loyers ?
Alors oui, aujourd'hui on le voit apparaître. En réalité, on est dans une situation où vous êtes syndic de copropriété, vous faites vos régularisations de charges de copropriété, on les présente en assemblée générale entre le mois d'avril et le mois de juin ou début juillet, et on fait la répartition ensuite. L'augmentation de l'énergie fait que même avec le bouclier tarifaire, on a des augmentations très importante des charges. Et bien évidemment, la consommation électrique ou gaz est répercutée sur le locataire. Et le locataire reçoit sa régularisation quelques mois après. Donc aujourd'hui, on assiste à une augmentation d'abord des impayés au niveau des propriétaires bailleurs, parce que bien évidemment, ils n'imaginaient pas avoir une telle augmentation. Et derrière, bien évidemment, ils le répercutent à leurs locataires, qui eux aussi vont avoir les mêmes difficultés et ont une augmentation en contrepartie, eux aussi, d'impayés à ce niveau-là.
Et on rappelle que, vous l'avez dit, François-Emmanuel, la plupart des propriétaires bailleurs n'ont qu'un seul logement et pas des revenus très hauts.
Oui, oui. Et puis j'ajouterais qu'actuellement, les taux d'intérêt, c'est-à-dire que vous mettez votre argent à l'abri, il était rémunéré à 4,5% quand les loyers, en fait, sont en fait encadrés et plafonnés à 3,5%.
Alors, le livret A, c'est 3%.
Oui, peut-être le livret A, mais enfin, vous avez d'autres produits que le livret A. Et quand vous avez pas mal d'argent, vous utilisez d'autres produits que le livret A. Mmh. Et donc, je pense qu'en fait, l'arbitrage, en effet, la sécurisation... Alors déjà,
donc l'immobilier n'attire plus les investisseurs, c'est ce que vous êtes en train de dire en ce moment.
En fait, comme l'avait souhaité le président Macron, il préfère que cet argent n'aille pas dans l'immobilier, mais dans quelque chose qui soit mobile, qui soit
productif. Dans les produits financiers.
Et en l'occurrence, ce sont des produits financiers. Donc c'est un peu, moi je trouve ça assez triste, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout ce que je pense l'opinion majoritaire en France. En tout cas, ce n'est pas ce à quoi aspirent la plupart du temps les gens quand ils veulent fonder... un patrimoine pour leur famille, pour le transmettre, ne serait-ce que pour vivre confortablement chez soi.
Benjamin.
On a beaucoup parlé de nos clients, effectivement, qu'on accompagne et qu'on arrive à sauver du marché en leur proposant des travaux qualifiés, comme le disait Olivier. Effectivement, on avance petit à petit. On va d'abord avancer d'une lettre pour qu'ils conservent le bien. Puis l'année d'après, on va faire des travaux plus importants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a sur notre marché, c'est qu'on n'a plus de nouveaux investisseurs. Donc il n'y a plus de rotation, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on avait toujours un ou deux investisseurs qui sortaient du marché, mais on en récupérait trois ou quatre, et qu'au final, il y avait une certaine rotation qui, pour nos cabinets, permettait une sécurité au niveau de la garantie de nos clients, en fait. Mm. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de marché de la transaction. Aujourd'hui, la transaction s'écroule. Donc, les investisseurs, comme le dit François-Emmanuel, préfèrent laisser tranquillement leur argent dans leur banque et avoir un retour sur investissement de 4,5 qu'on ne peut même pas leur offrir.
Mais en fait, le problème est multifactoriel. C'est-à-dire que même si on commence à traiter une cause, je pense qu'en fait, si on ne met pas toutes les forces en commun, moi, je suis presque prêt à rédiger déjà la tribune d'Henri Buzicazo d'octobre de l'année prochaine, où en effet, ça va être... enfin, quand il le disait déjà il y a un an, mais c'est la crise des gilets jaunes qu'on va avoir pour le logement, mais j'en suis convaincu, j'en suis archi convaincu. On est tout, il n'y a aucun signe qui soit favorable à ce qu'on puisse refluidifier ce marché de la location.
Et moi, je donnais toujours un exemple. Un loyer à 1900 euros, c'est quand même assez élevé à Paris.
Même très élevé.
C'est plus de 600 appels entre 19h la veille et 10h le
pour
lendemain.
Pour un loyer de 1900
on a retiré l'annonce. Non, mais il faut avoir conscience de la situation. Dans la nuit, c'est 600 demandes. C'est plus de 100 dossiers. Et aujourd'hui, on nous dit ne faites pas de discrimination. Mais force est de constater que c'est vrai que je suis plus à même de reprendre le dossier d'un fonctionnaire dans ce cas-là plutôt qu'un indépendant. C'est pas que je fais de la discrimination, c'est qu'il faut être logique. Je vois la garantie de mon bailleur.
Henri, peut-être une petite réaction à ce sujet. Et est-ce que vous partagez cette analyse sur notre président de la République qui, on va dire, encourage plutôt les Français à investir dans les produits financiers que dans l'immobilier ?
Oui, si on regarde, si on écoute le discours du président de la République, si on est attentif à ses déclarations, on ne peut pas le nier. Alors heureusement, l'État, ça n'est pas que le président de la République, mais il y joue un rôle déterminant. Moi, ce que je vois depuis quelques semaines, j'aime bien voir les signaux positifs, même quand ils sont faibles. C'est une prise de conscience qui va croissant. On est au niveau de la Première ministre aujourd'hui, qui est sensible à ça. On a un ministre du Logement qui est lucide, bon, et qui se bat à l'intérieur de l'exécutif en faveur de ce réalisme. Voilà, moi, je prends ce qu'il y a à prendre. Alors, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Les mesures de la future loi de finances ne sont pas suffisantes. Mais on a progressé là. Pourquoi on a progressé ? Parce que ces tensions, elles sont dans la rue. Sensibles ou pas. Il y a des territoires où elles sont sensibles. Vous allez sur le territoire Pays Basque, c'est mon pays, il y a des manifestations chaque semaine et pas toujours pacifiques parce que localement, les ménages ne peuvent plus se loger. Manque de parcs locatifs, manque de logements sociaux, etc. Donc, très clairement, il ne peut pas y avoir durablement la surdité du président de la République. Je pense que, même si il part sur des considérations exactement inverses, eh bien, il va devoir consentir des gestes politiques qu'il n'avait pas envie de faire. Voilà, ça me paraît inévitable, on est en train d'assister. Et il y a des parlementaires aujourd'hui, en nombre, à l'Assemblée, au Sénat, qui...
Ils sont très actifs.
Qui poussent en mêlée, voilà, je reprends l'expression.
Ils sont jeunes et actifs.
Et de manière transpartisane, ça ne s'était jamais vu à ce point, parce qu'il y avait quand même une conception de gauche du logement.
Donc ce sujet fédère, il y a un problème.
Et quand il fédère à ce point-là, c'est que ça chauffe dans les territoires et qu'il faut laisser un peu tomber les clivages et il faut, faut y aller franco. Quoi.
Donc les députés en ont plus conscience, en tout cas, que
les députés sont à la tête de... comme les sénateurs, très clairement, et comme les maires, on est en plein
congrès des maires. Ils sont directement sur le terrain.
Ouais. Absolument.
Je pense qu'il faut qu'ils fassent preuve de courage avant tout. Bien sûr que changer le calendrier, après avoir dit qu'on ne le faisait pas, c'est avoir du courage de pouvoir le faire. Le statut du bailleur privé, il faut avoir un peu de courage de pouvoir le faire, puisqu'effectivement, on va se mettre une partie de la population des loueurs meublés non professionnels à dos. Mais il faut faire preuve de courage dans cette période où on sait qu'on va dans le mur. Il faut absolument proposer des choses, parce que c'est certain.
Enfin, on voit bien que Bruno Le Maire a rétro-pédalé. C'est qu'il avait bien pédalé dans un sens.
Deux, trois fois. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quand même quelque
chose. Il nous avait entendu, hein, clairement.
Non, mais ça veut bien dire que...
Ça veut dire quelque chose.
Il y a des mésententes au niveau du
gouvernement. Non, ça veut dire qu'en fait, il y a des convictions il y a des convictions individuelles, et puis, mais portées par des éléments objectifs.
Bien sûr.
Et puis après
Bruno Le Maire l'a bien mentionné, en fait, il parlait personnellement.
Il faut dire les choses très clairement. Il y a du dogmatisme, en fait, malheureusement, qui prévaut. Je suis pas sûr que, en fait, là, on a besoin en gros de 2 ans. 2-3 ans pour avoir la souplesse qui va bien pour une copropriété. Or, est-ce que c'est sur ces 2-3 ans de délai que l'on va sauver la planète? Je suis pas convaincu, vous voyez.
Olivier Safar, pour terminer cette table ronde.
Simplement dire qu'on a tous travaillé pendant l'année 2022 et 2023 à faire des propositions. C'était le CNR Logement, je pourrais quand même revenir dessus. Le travail a été fait, 3 commissions importantes, des députés, des sénateurs, des professionnels de l'immobilier, des politiques aussi, et des maires.
Très engagés.
Très engagés pour trouver des solutions. Et nous n'étions en aucun cas des mêmes bords politiques. Mmh. Et pourtant, on est tous arrivés au même constat et à la même volonté de loi de programmation sur 5 ou 10 ans pour l'immobilier, d'une sortie vers le haut de l'immobilier et de remise en avant de ce patrimoine qui est le nôtre et que l'on voit aujourd'hui mettre de côté par le président. Et j'en suis absolument désolé.
Eh bien, merci infiniment, messieurs. C'était le mot de la fin. Je vous dis à très vite sur Radio Immo.
Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo et Drieux-Combaluzier en direct du pavillon Dauphine sur Radio Immo.